Bonjour, je suis Frédéric Tribalot, chargée d'études urbaines chez Dixit.net. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec la chercheuse Aude Le Gallou, qui travaille sur la géographie urbaine, les friches urbaines et l'exploration urbaine, plus communément appelée urbex. Nous avons parlé d'esthétique de l'abandon, de performance des corps, de tourisme plus ou moins légal et de photographie. Vous pouvez retrouver toutes nos publications et tous nos podcasts sur Dixit.net. Bonne écoute!
Une ville en pleine expansion.
Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités.
Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle?
C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain.
On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. Hein. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones.
And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth.
On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité.
Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès.
Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense.
Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir.
Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes.
Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution.
On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise.
Bonjour Aude Le Gallou.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse associée au laboratoire IRCET. IRCET, ça y est, j'ai déjà oublié, mais je vais le dire.
EREST.
Voilà, EREST, merci. L'équipe interdisciplinaire de recherche donc, sur le tourisme de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et vous êtes aussi attachée temporaire d'enseignement et de recherche à Sorbonne Université. Vos thèmes de recherche sont notamment sur la géographie urbaine, les friches urbaines, l'exploration urbaine, mais qu'on dit plus communément urbex, et les espaces marginaux. Vous avez d'ailleurs écrit une thèse sur la géographie des lieux abandonnés, de l'urbex au tourisme de l'abandon, perspectives croisées à partir de Berlin et de Détroit en 2021. C'est exact?
C'est bien ça.
Ok. On va complètement rentrer dans le sujet de votre thèse, c'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais peut-être qu'on peut commencer un peu par une question assez large sur vos thèmes de recherche en général, qui est un peu à la fois comment et pourquoi vous êtes intéressé à ces espaces qu'on dit pourtant des espaces délaissés, abandonnés, donc peut-être pas tant synonyme d'intérêt que ça?
Alors, c'est venu assez progressivement. Je me suis toujours, enfin toujours, depuis longtemps, je m'intéresse à ces espaces-là. J'ai une petite fascination pour les friches, pour les lieux abandonnés. Et dans ma recherche, je les ai incorporés finalement assez progressivement à ma recherche, puisque en Master 1, j'avais fait un mémoire sur la mémoire urbaine de l'ex-RDA à Berlin-Est, ce qui m'avait un petit peu amené à ces questions d'abandon, de réappropriation, de disparition. En Master 2, j'étais ensuite passée toujours sur Berlin à la question des friches urbaines et de la manière dont elles étaient réappropriées, des enjeux qui s'y attachaient à Berlin à partir de deux friches particulières. Et au cours de ce mémoire de Master 2, je me suis rendu compte qu'il y avait une question qui m'intéressait particulièrement, qui était celle de l'urbex et de l'exploration un petit peu générale de ces lieux, puisque un des lieux que j'ai étudié était à la fois un lieu d'urbex, mais aussi un lieu qui, de temps en temps, le week-end, était ouvert à des visites touristiques un petit peu plus cadré, un petit peu plus classique, mais qui était toujours fondé sur l'intérêt que ressentaient les gens pour la dimension d'abandon des lieux. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit que c'était un truc que j'avais envie de creuser, et donc petit à petit, j'ai élaboré un projet de thèse sur la question, et donc j'en suis venue à faire ma thèse sur la question du tourisme de l'abandon, donc des formes de tourisme qui sont inspirées de l'urbex. Et là, je me suis intéressée à Berlin toujours, parce que je voulais garder ce terrain que je connaissais bien, et à Détroit, puisque je voulais avoir une perspective comparative, et Détroit me paraissait vraiment un terrain incontournable, disons, sur cette question-là.
On va revenir un peu plus tard sur le mot de tourisme que vous avez utilisé, qui peut paraître un peu étonnant quand on parle d'espace délaissé, mais on y reviendra. Peut-être d'abord, pour rentrer un peu, alors là, pour l'aspect presque un peu recherche quand même, mais ça, c'est intéressant. Vous faites une différence sémantique très, très rapidement dans votre recherche. qui est même une différence de regard finalement un peu posée sur ces espaces, avec d'un côté vraiment ces friches urbaines et d'un autre ces espaces abandonnés. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux alors qu'on a tendance un peu à utiliser ça comme des synonymes? Vous, quel changement vous avez opéré pour parler de ces espaces?
Alors en fait, la première chose à avoir en tête, c'est qu'en fait, ces espaces, c'est les mêmes. Les friches, les lieux abandonnés, ça renvoie aux mêmes espaces. Par contre, ce qui change beaucoup, à mon sens, c'est le regard qui est porté sur ces espaces. Quand on parle de friche, friche, c'est un terme qui est très utilisé en géographie, donc est ma discipline, et puis dans d'autres disciplines connexes, en aménagement, en urbanisme. Donc c'est vraiment un terme qui, scientifiquement, est circonscrit et utilisé à une définition à peu près claire. Donc la friche, c'est concrètement un lieu qui a perdu sa fonction, en général temporairement, et en général, quand on parle de friche, il y a toujours un petit peu, de manière sous-jacente, la question de la possible reconversion, réappropriation, remise en fonction, que la fonction soit la même que la précédente ou pas, en général, c'est plutôt pas. Donc quand on parle de friche, il y a vraiment plutôt un accent qui est mis sur la question de la fonction, fonction perdue, puis éventuellement retrouvée, et donc c'est souvent un terme qui renvoie à une dimension opérationnelle, aménagiste, donc assez professionnelle d'une certaine manière de la ville. Et moi, ce qui m'intéressait dans la notion de lieu abandonné, c'est que c'est un vocabulaire qui est beaucoup moins scientifique, qu'on trouve très peu en fait en géographie, mais qui est vraiment le vocabulaire, l'expression qui est employée de manière récurrente dans l'exploration urbaine et puis de manière un petit peu plus large dans une culture populaire qui s'intéresse à ces friches contemporaines. Et du coup, dans ma thèse, je me suis dit que j'allais tout simplement prendre au sérieux ce choix sémantique des acteurs qui étaient les premiers concernés et essayer de comprendre pourquoi on parlait plus de lieux abandonnés que de friches. Et la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que globalement, ça renvoie aux mêmes espaces, aux mêmes types d'espaces, mais qu'en revanche, le terme de lieu abandonné, ça définit finalement une nouvelle catégorisation spatiale qui manifeste une évolution du regard qui est porté sur les friches. En gros, les lieux abandonnés, ça va être les friches qui vont être rendues attractives, désirables, du point de vue des urbexeurs, et puis d'un point de vue aussi un petit peu plus large pour des gens qui ne sont pas forcément urbexeurs, mais que ça intéresse ou qui vont trouver un intérêt esthétique, par exemple, assez friche. Et pour moi, il y a trois facteurs principaux de passage, finalement, de ces friches à ces lieux abandonnés, donc de valorisation de ces friches qui vont devenir ces lieux abandonnés. Le premier facteur, c'est le fait qu'on a, dans les 10-15 dernières années, disons, une diffusion de plus en plus importante d'un corpus photographique consacré aux friches urbaines et qui valorise vraiment d'un point de vue esthétique ces espaces. Donc les lieux abandonnés, ça va être les friches qui sont, dans un premier temps, rendues esthétiquement intéressantes, esthétiquement désirables. Il y a un deuxième facteur, à mon sens, qui est lié justement à la popularisation de l'urbex, qui était un loisir très confidentiel au départ, qui est de plus en plus popularisé, de plus en plus médiatisé, donc de plus en plus visible d'un grand public qui n'est pas forcément praticien de l'urbex. Et du coup, comme on popularise l'urbex, on popularise aussi mécaniquement les lieux qui sont investis par l'urbex, donc ces lieux abandonnés. Et il y a une valorisation, du coup, que je qualifierais d'expérientielle, au sens où ces lieux abandonnés, on va les considérer petit à petit comme des lieux où on peut vivre une expérience d'exploration intéressante, originale, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et le troisième facteur de valorisation, qui est très lié à ça, à mon sens, c'est le fait que ces lieux vont être petit à petit investis d'un imaginaire que je qualifie d'imaginaire de front pionnier, au sens où ces lieux abandonnés appellent dans un imaginaire collectif leur conquête ou leur reconquête. Quand on parle de lieux abandonnés, c'est l'idée qu'il y a un affaiblissement ou une disparition des appropriations sociales de ces lieux, et que du coup, en allant les explorer, on va prendre une posture d'explorateur, de quelqu'un qui a le courage nécessaire pour y entrer, qui a pas froid aux yeux, qui sort un petit peu des sentiers battus, là encore. Donc il y a vraiment une forme de valorisation que je qualifierais presque de sociale, au sens où l'exploration de ces lieux abandonnés devient un vecteur de distinction, quasiment. Donc, pour essayer de résumer tout ça, quand on passe de la friche au lieu abandonné, on ne change pas concrètement d'espace, mais on change vraiment de regard porté sur les espaces et d'imaginaire associé à ces espaces.
On va revenir après plus précisément sur ces imaginaires et sur ces praticiens et praticiennes de l'urbex. Je dis praticienne, mais il y a beaucoup de praticiens. C'est intéressant ce que vous avez expliqué sur, en effet, ce côté à la fois professionnel de la friche, ce regard professionnel, puis ce regard qui se détache, qui est plus qui vient d'un champ plus populaire, plus associé aussi au loisir. On a à la fois l'impression qu'en fait, pourtant, cette friche urbaine pourrait être valorisée dans le monde professionnel et finalement, elle est presque plus valorisée quand on parle d'espace abandonné parce qu'elle devient un lieu esthétique, un lieu où exercer une forme de courage aussi, comme vous l'avez dit, de valorisation sociale. Donc, en effet, c'est assez rigolo ce changement par juste les personnes qui vont la pratiquer, comment elles se valorisent différemment, quoi. Est-ce qu'on peut parler aussi de cette... Alors là, on parle donc du même lieu, mais pas vu par le même regard, mais est-ce qu'on peut aussi parler d'une différence de traitement et donc aussi une différence sûrement de regard de ces espaces selon les contextes, notamment selon les deux villes que vous avez étudiées à Berlin et Détroit?
Oui, parce que l'abandon n'a pas nécessairement la même ampleur et les mêmes conséquences en fonction des contextes géographiques. Et justement, entre Détroit et Berlin, il y avait une différence assez notable qui était que Détroit, c'est une ville qui est une ville en décroissance, qui a connu un mouvement de déclin qui était vraiment très, très, très marqué au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, en gros, et qui se perpétue encore aujourd'hui, quoique de manière un petit peu moins marquée. Et du coup, l'abandon à Détroit, c'était vraiment un immense problème au sens où il était déjà omniprésent. C'est vraiment une ville qui a perdu plus de 60% de ses habitants en 70 ans. Donc, il y avait un abandon massif et protéiforme. En fait, on avait des maisons abandonnées, des usines abandonnées, des écoles, des églises. Donc, il y avait vraiment un échantillon très, très complet d'abandon. Et dans ce contexte-là, du coup, c'est vraiment perçu comme une nuisance à la fois en termes économiques, parce que plus il y a de lieux abandonnés dans un espace, plus les lieux qui ne sont pas abandonnés perdent de leur valeur. Une nuisance en termes de sécurité, puisque plus on a d'abandon, moins le sentiment de sécurité pour les habitants est présent. Et puis, il y avait un gros problème d'image aussi. Être perçu comme la capitale des ruines de l'Occident, ce n'est pas forcément quelque chose de particulièrement porteur en termes d'attractivité urbaine. Donc, il y avait vraiment là un abandon qui était vraiment perçu comme une nuisance et qui pouvait du coup être aussi presque un petit peu tabou, pas au sens où on n'en parlait pas, mais au sens où venir à Détroit et dire « moi, je m'intéresse au tourisme qui a lieu dans les lieux abandonnés », c'était parfois quelque chose qui était assez mal pris par les populations parce que j'en avais ras-le-bol, en fait, qu'on associe leur ville à ça et qu'on les associe finalement eux aussi à ce déclin et à rien d'autre. À Berlin, c'était très différent. Alors, j'ai consacré ma thèse à Berlin et j'ai un petit peu élargi les choses. C'est la région berlinoise. J'avais quelques terrains qui étaient à une cinquantaine de kilomètres de Berlin. Mais quand on s'intéresse vraiment à la ville de Berlin en elle-même, là, c'est très différent parce que Berlin, c'est une ville qui est aujourd'hui très attractive. Et donc, l'abandon est beaucoup, beaucoup moins présent. Il a été de manière assez importante et assez marquée après la réunification, notamment à l'est de la ville. Mais aujourd'hui, la plupart des friches urbaines dans les quartiers centraux et péricentraux de Berlin ont été réappropriés, reconvertis, parce qu'il y a une réelle demande, parce qu'il y a une valorisation économique, foncière, immobilière. Et du coup, cet abandon, c'est pas du tout un problème majeur comme il l'est à Détroit. Donc, on n'a pas le même regard qui est porté et par les populations et par les pouvoirs publics et également par les acteurs privés. Donc, à Détroit, il y avait vraiment cet abandon stigmate d'une certaine manière et à Berlin, un abandon qui est beaucoup plus résiduel et qui, à la limite, contribue à l'atmosphère un peu, voilà, à l'image un petit peu alternative de Berlin, le fait qu'il reste quelques friches emblématiques. C'est quasiment plutôt un avantage, disons, ou quelque chose qui n'est pas forcément perçu comme négatif, parce que ça n'a pas d'incidence particulière sur les dynamiques urbaines générales, avec une ville qui est attractive, où il y a une grosse valorisation économique foncière, mais avec quelques lieux abandonnés qui contribuent finalement à une image plutôt positive de capitale un petit peu alternative.
J'aimerais bien reparler en effet des gens qui pratiquent l'urbex donc dans ces deux villes. Et alors justement, vous venez de parler de cette différence de regard du coup sur l'abandon, mais quelle représentation aussi, alors j'imagine différenciée du coup selon les différents terrains que vous avez eus, quelle représentation, quel imaginaire peuvent investir ces praticiens et ces praticiennes de l'urbex dans ces espaces délaissés? Vous avez déjà commencé à l'évoquer avec des formes de posture d'explorateur, de courage, mais qu'est-ce que ces espaces peuvent aussi venir évoquer chez ces gens qui les pratiquent?
Alors, je pense qu'il faut déjà peut-être distinguer entre les gens qui pratiquent vraiment l'urbex et puis ceux qui viennent faire du tourisme de l'abandon, donc des pratiques touristiques plus cadrées, très inspirées de l'urbex. Si on en reste à l'urbex, je pense qu'il faut lier la question des imaginaires avec celle des motivations de la pratique. Donc, il y en a qui vont avoir une motivation qui est majoritairement esthétique et souvent photographique. Donc l'idée, ça va être de faire des jolies photos de lieux abandonnés. Et là, souvent, les imaginaires qui semblent associés à cette forme de la pratique, à cette dimension-là de la pratique, c'est des imaginaires qui vont faire de ces lieux abandonnés des espaces, finalement, où peuvent se déployer des émotions qui ne se déploie pas forcément facilement ailleurs dans un espace urbain beaucoup plus cadré. Et donc là, on va aussi avoir un intérêt particulier pour toute l'atmosphère qui est liée à cette notion d'abandon. Donc l'idée que les populations qui étaient présentes, les sociétés qui les ont investi ces lieux ne sont plus là, que c'est peut-être la fin d'une époque industrielle, par exemple, ou la fin de tel ou tel système politique. Et là, il y a des imaginaires qui sont des imaginaires très, très liés au temps qui passe, finalement, et à l'idée de la finitude humaine, de la finitude de tel ou tel système politique ou économique. Et donc là, en fait, on retrouve, il y a des connexions pas mal avec tout ce qui est esthétique et philosophie de la ruine, qui s'est développée depuis plusieurs siècles, hein, qui n'est pas du tout spécifique aux ruines contemporaines. Il y a d'autres motivations qui sont plutôt patrimoniales ou historiennes, avec vraiment là la volonté de documenter les lieux, d'exhumer, de mettre en valeur des histoires qui sont oubliées, qui sont pas forcément valorisées par un discours patrimonial, historique, officiel. Donc là, ça va aussi être associé à des imaginaires qui peuvent être des imaginaires un petit peu plus... Alors, qui ont toujours une dimension esthétique, je pense, mais qui peuvent être un peu plus savants, qui ont une dimension un petit peu plus savante. Et puis... Alors, c'est pas exhaustif, hein, évidemment, comme liste, parce que je pense que si on demande à chaque explorateur ce qu'il motive et les imaginaires qu'il a, ça, on aurait plein de réponses très différentes, mais j'essaye de brosser ça un petit peu à grands traits. Ce qui me paraît intéressant aussi actuellement, c'est que la popularisation de l'urbex amène finalement des praticiens un peu nouveaux de cette discipline, avec des guillemets. Et on a une tendance assez marquée depuis quelques années à la mise en scène finalement des explorations sur YouTube notamment, avec des gens qui se filment et qui font des choses des vidéos assez sensationnalistes, qui sont pas toujours de très très bon goût et qui sont parfois pas très nuancées. Et là, je pense qu'il y a vraiment que là joue à plein, disons, cet imaginaire du front pionnier, de la conquête, de regarder, moi je vais explorer un truc dangereux. Souvent, ils en font des tonnes avec, regardez, on a trouvé un fantôme, on a trouvé un semi-cadavre, je dis semi-cadavre parce qu'en général, il n'y a pas du tout de cadavre, mais ils mettent en scène des trucs, des trucs assez, assez excessifs. Et là, ça me paraît intéressant parce que c'est à la fois une tendance qui est assez décriée par les puristes, entre guillemets, et en même temps quelque chose qui est assez intéressant justement pour saisir ces imaginaires de vraiment de front pionnier, de conquête, d'exploration et de mise en scène de soi. Finalement, il y a une mise en scène des lieux, mais qui sert in fine une mise en scène de soi comme quelqu'un de d'assez badass qui va explorer des lieux que tout le monde ne va pas explorer, que tout le monde n'aurait pas le cran d'aller explorer. Et donc sur cette question des imaginaires, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont liées à la fois à cette dimension d'exploration, de conquête, d'aller finalement se réapproprier des lieux qui ont été abandonnés par le reste de la société d'une certaine façon, et puis des choses qui tiennent beaucoup plus au rapport au passé, à la mémoire des lieux, à ce qui s'y est joué ou non, et donc également des imaginaires qui font des lieux finalement des incarnations du temps qui passe et de la finitude de telle ou telle société, tel ou tel système, voire plus généralement de la finitude de la condition humaine, quoi, d'une certaine façon.
Oui, c'est intéressant, vous dites à la fois des espaces qui sont mis en scène, mais en fait qui mettent en scène les gens qui les pratiquent. Il y a vraiment une histoire aussi de performance derrière sa pratique de ces espaces. Et je trouve que ça nous amène tout de suite à cette question du rôle que peut avoir la pratique de l'urbex, alors donc plus ou moins puriste, si je comprends bien, avec le tourisme finalement de l'abandon. Donc, comme vous le disiez, abandon relatif, puisqu'il y a déjà eu des nouveaux usages, mais comment se fait un peu ce pivot, ce glissement d'une pratique qui était à la fois, on va dire, un peu peu connue pendant tout un moment, avec des pionniers, des pionnières, et puis maintenant quelque chose de presque classique et de plus si dangereux que ça, d'une certaine manière.
Alors, c'est un mouvement, je pense, qui est assez classique dans tout type de pratique un peu off, un peu hors des sentiers battus. Ça se manifeste beaucoup en art aussi, par exemple, avec le graph, le street art. Quelque chose qui est hors du cadre légal, hors du cadre de la valorisation sociale, qui petit à petit rentre dans ce cadre-là. Et donc, ça modifie les conditions de la pratique, ça élargit le public auquel s'adresse cette pratique finalement, et puis ça rentre dans des dynamiques aussi de valorisation marchande. Pour le cas de l'urbex, je pense qu'on voit tout à fait cette évolution-là, avec une pratique qui au départ est assez confidentielle, et puis petit à petit, sur la base des éléments dont je parlais tout à l'heure, donc notamment la valorisation esthétique, qui est un médium très puissant en fait de diffusion de la pratique, de popularisation, de médiatisation, parce que les photos ça marche bien, c'est visuel, c'est immédiat, c'est facilement valorisable, facilement publiable. Et donc à partir de cet élément-là, se développe un intérêt du grand public pour ce type de lieu et ce type de pratique. Et à partir de là, certains acteurs, notamment dans le cadre de ma thèse, des acteurs privés, se saisissent de cet intérêt et en font quelque chose de... Enfin, on le transforme finalement en offre touristique. Ce qui est important à souligner, je pense, c'est que c'est pas, a priori, pas les mêmes personnes qui vont pratiquer l'urbex d'un côté et prendre part à ces formes de tourisme de l'abandon. Alors, ça dépend évidemment des contextes géographiques. Hein. Dans certains contextes, dans certains cadres, ça peut être un... Enfin, on peut avoir des urbexeurs qui vont le faire parce qu'ils vont considérer que la manière dont c'est proposé cette mise en tourisme correspond à leurs attendus, à leurs valeurs. Dans d'autres cadres, peut-être un petit peu moins. Mais pour essayer de résumer un petit peu le passage de l'urbex au tourisme de l'abandon, à mon sens, ça repose sur trois piliers. La première chose, c'est ce que j'appelle l'intermédiation, au sens où dans l'urbex, on est censé trouver ces lieux tout seul, trouver l'entrée des lieux tout seul, enfin tout seul ou en petit groupe, mais personne ne va le faire à notre place, en gros, et puis se débrouiller ensuite aussi tout seul dans le lieu. Et la différence qui intervient avec cette intermédiation, c'est que dans le cadre d'une offre touristique, on paye quelqu'un pour faire tout ça à notre place. Donc on paye, on est emmené sur les lieux, le prestataire va nous dire comment entrer et ensuite va nous guider un petit peu à l'intérieur en pointant les lieux, enfin les espaces intéressants, les éventuels dangers, etc., etc. Donc il y a vraiment cette idée que toute une partie de l'exploration, on la délègue à un prestataire extérieur. Le deuxième pilier de cette valorisation touristique, c'est la sécurisation de l'exploration, voire sa légalisation. Alors, en fonction des cadres, c'est pas toujours légal. Le prestataire que j'ai étudié à Détroit faisait ça de manière illégale. À Berlin, en revanche, c'était légal. Mais dans tous les cas, que ce soit légal ou pas, c'est en général plus sûr que si on le faisait tout seul. Tout simplement parce que il y a un prestataire qui a quand même tout intérêt à ce que vous ressortiez vivant et à peu près en bon état de sa visite, même si évidemment derrière il y a des grosses assurances au cas où quelque chose tournerait mal. Mais globalement, c'est beaucoup plus balisé et les prestataires vont pas vous emmener dans un espace qui est vraiment dangereux. Donc, il y a une sécurisation de l'exploration qui est beaucoup plus aléatoire, en fait, quand on explore tout seul. Et le troisième pilier qui est hyper important, c'est la commercialisation, la marchandisation de cette exploration. Dans le cadre de l'Urbex, on a quelque chose qui est, en théorie, purement gratuit et qui, justement, n'entre pas dans un système de marchandisation, dans un système de rétribution marchande. Alors que dans le cadre du tourisme de l'abandon, bah là, les lieux abandonnés et leur exploration guidée, ça devient un produit qu'on peut valoriser, auquel on peut assigner une valeur marchande et qu'on va vendre à des personnes qui sont prêtes à payer pour bénéficier justement de ces deux premiers piliers, l'intermédiation et la sécurisation de l'exploration.
Oui, encore une fois, c'est un changement de regard. On parlait de la friche urbaine tout à l'heure, très avec un regard qu'on peut poser un peu professionnel dessus, qui est plus ou moins temporaire, où on pense beaucoup à sa fonction, puis on passe à ces espaces abandonnés, délaissés, où là, on a une valorisation très différente qui vient plutôt du loisir et de l'aspect esthétique qu'on peut y associer. Et là, on passe même à une valorisation, alors du coup, par un processus de consommation, par une réinsertion dans un processus de consommation. Donc vraiment, on avait plusieurs états. Vous avez commencé à les évoquer, mais est-ce qu'on peut parler aussi de cette différence de traitement de ce tourisme selon si on est à Détroit que si on est à Berlin?
Ouais, alors là, dans ce que j'ai observé, dans le corpus, disons, de prestataires que j'ai observé, il y avait vraiment une différence très nette qui était que à Détroit, il y avait un prestataire qui faisait ça de manière significative, c'est-à-dire en ayant pignon sur rue et en ayant un nombre assez significatif de clients. Alors, quand je dis assez significatif, c'était environ une trentaine de personnes par week-end, ce qui n'est pas non plus énorme, mais ce qui est néanmoins plus important et plus régulier que d'autres personnes qui faisaient ça de façon beaucoup plus, alors pas cachée complètement, mais beaucoup plus confidentielle, et en opérant vraiment sur une base plus individuelle, en disant bah, « contactez-moi, moi je vous emmène dans les lieux », et c'était, ils emmenaient les gens dans les lieux, mais à une, deux, trois personnes. Donc là, c'était vraiment le seul prestataire qui faisait ça d'une manière un peu plus systématique et un petit peu plus collective. Lui, il faisait ça de manière illégale. Et c'était assez marrant parce qu'il avait parfaitement pignon sur rue, il était bien classé sur TripAdvisor, il avait un site internet, il n'y avait aucun problème pour le trouver. Mais néanmoins, ce qu'il faisait, c'était techniquement de la violation de propriété privée parce qu'il n'avait pas l'autorisation d'entrer dans ces lieux, qui, par ailleurs, était ouvert à tout vent, mais ça reste, selon le droit américain, de la violation de propriété privée. Et donc, ce prestataire n'était pas du tout valorisé par les instances officielles, notamment l'Office de tourisme, donc, ou plutôt, plus précisément, le Bureau du tourisme de Détroit, qui était complètement aveugle à ce type d'activité parce que c'était pas du tout ce que la municipalité et les acteurs publics et privés de Détroit voulaient mettre en avant. L'idée, c'était vraiment de mettre en avant, au contraire, des éléments, des activités qui manifestaient une forme de renaissance de la ville, une forme de retour en grâce de la ville. Donc l'abandon, c'était clairement pas quelque chose qui, à leurs yeux, était valorisable. Donc ce prestataire, il fonctionnait vraiment de son côté, ça marchait bien son activité, Mais il faisait ça de manière parfaitement indépendante de, à la fois des propriétaires des lieux et des instances officielles de promotion touristique. À Détroit, à Berlin, c'était très différent, puisque j'ai essentiellement suivi une entreprise qui était elle aussi un petit peu leader sur ce marché, qui est de toute façon un marché de niche, et qui, elle, ne fonctionnait que de manière légale sur la base d'accords avec les propriétaires. Donc, il n'y avait jamais d'entrée illégale dans les lieux. C'est vraiment des lieux qui étaient, dont le propriétaire était identifié avec ses propriétaires. Enfin, l'entreprise avait passé un accord avec ses propriétaires et opérait avec l'accord des propriétaires selon des modalités qui avaient été convenues avec le propriétaire. Et dans ce cadre-là, étant donné que c'était légal, c'est quelque chose qui était là promu par l'Office de tourisme. Donc l'Office de tourisme de Berlin, qui est une ville touristique avec un profil très très différent de celui de Détroit, c'est une ville touristique depuis plus longtemps, c'est une ville qui est très touristique, et donc il y avait beaucoup plus de place en fait à Berlin pour la valorisation d'activités un petit peu hors des sentiers battus, un petit peu underground, et c'était donc tout à fait possible pour cet office de tourisme de valoriser des choses qui étaient très classiques, type la porte de Brandebourg, tel ou tel musée, et à côté des choses un petit peu différentes, parce que ça répondait finalement à un public hyper varié, hyper massif, qui pouvait demander des choses très différentes. Et donc là, il y avait vraiment un traitement différent, mais qui fait écho en fait complètement à la différence d'importance et de traitement de l'abandon de manière générale. À Détroit, c'est un stigmate, on ne va pas le valoriser de manière touristique. À Berlin, dans le cadre d'une ville très attractive, très touristique, l'abandon relativement résiduel qui reste dans cette agglomération, ça peut au contraire être un levier de diversification des pratiques touristiques et de l'offre touristique.
C'est important, vous montrez en fait aussi que ce tourisme, du coup, cette mise en valeur quasi publique de ces lieux pourtant délaissés, fait qu'en fait, tout de suite, on est obligé d'avoir un lien, alors voulu, pas voulu, mais avec les institutions publiques. Et finalement, les propriétaires des lieux aussi qui sont, alors comme vous le disiez, à Détroit, pas forcément, enfin plus ou moins, plutôt réfractaires à la mise en valeur touristique de ces lieux, alors qu'à Berlin, ça peut faire partie d'un processus culturel qui est porté par la collectivité aussi, quoi. Donc, intéressant. Alors, on a seulement effleuré le sujet, évidemment. On pourrait en parler bien plus, mais justement, Aude, est-ce que vous auriez un ou des conseils de lecture pour aller plus loin à ce propos?
Alors, quelques conseils sur la question de l'urbex. Je pense que les travaux de Nicolas Offenstadt sont hyper intéressants. Il y a deux bouquins sur l'urbex en RDA, en ex-RDA spécifiquement, et puis un livre un petit peu plus récent qui fait bien le point sur l'urbex de manière générale et puis la manière dont ça a été traité en sciences sociales. C'est un sujet qui est très très visuel aussi, donc je recommanderais aussi des travaux photographiques. Je pense notamment aux travaux de Romain Meffre et de Yves Marchand, qui sont vraiment super. Ils ont notamment publié en 2010-2011 un gros bouquin de photos sur Détroit, que je conseille très très vivement. Sur l'urbex, il y a aussi plusieurs photographes, et il y a aussi quelqu'un que je trouve intéressant qui s'appelle Timothy Hanem, qui a publié deux bouquins aussi et qui va en publier un troisième à l'automne. Et puis, sur un plan un peu plus pratique, je conseillerais aussi éventuellement les visites de l'entreprise que j'ai suivie à Berlin, qui s'appelle GoToKnow, donc GO2KNOW. Donc des visites qui sont légales de lieux abandonnés, mais plus si abandonnés que ça, mais qui sont assez, assez intéressantes et assez sympas, notamment si on est photographe amateur ou amatrice.
Merci beaucoup. On va mettre toutes ces références dans le lien de description du podcast. Et puis, c'était seulement le début d'une conversation. On mettra aussi votre thèse. Alors, effectivement, c'est costaud à lire, mais, mais ça reste important pour ce sujet. Merci beaucoup, Aude.